voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et Marie, on la commence avec...
Alors, puisque c'est la Saint-Valentin, on aurait aimé commencer cette revue de presse avec un peu d'amour. Mais ce que la presse constate aujourd'hui, c'est plutôt la haine. 74%. C'est le chiffre qui s'étale sur la une de Libération aujourd'hui et on vous en a parlé tout à l'heure. En France, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018. Des chiffres qui claquent pour l'humanité, le reflet d'une réalité odieuse et abjecte pour le Figaro, mais le rôle du journaliste, c'est aussi de prendre du recul. Alors dans Le Monde, on analyse. Dominique Rénier en effet distingue trois antisémitismes, religieux, d'extrême gauche et d'extrême droite, qui prolifèrent dans un contexte d'obscurantisme et de théorie du complot, où les haines libérées par les crises convergent dangereusement. Dans Libé ensuite, on propose des solutions, éducation et répression sévère de l'antisémitisme en ligne par exemple, et dans l'Obs, on développe des théories pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement.
Des théories plutôt étonnantes à première vue, non ?
Oui, puisque est-ce que tu as entendu parler de la philosophie du bagel ? Eh bien, c'est ce que développe la rabbin Delphine Horvilleur. Le mouvement des Gilets jaunes a créé un espace politique, un trou, dans lequel s'engouffrent les acteurs antidémocratiques et antirépublicains. Alors certes, le bagel n'a pas le goût de son trou, mais doit être conscient de ce vide qui s'est créé en son centre. Vous me suivez ? Bref, une théorie éclairante qui prend un aspect terrifiant quand même quand Horvilleur rappelle qu'un tel déferlement de haine a souvent été le prélude de l'effondrement d'une nation.
Pas très réjouissant en effet, mais en parlant d'effondrement, je crois qu'il n'y a pas que la nation qui est concernée.
Et oui, puisque Le Monde titre en effet « L'invisible disparition des insectes » et nous apprend que 40% des espèces d'insectes sont en déclin et que leur extinction est 8 fois plus rapide que celle des mammifères, oiseaux ou reptiles. Et les pronostics ne sont pas bons. D'ici un siècle, il ne restera plus d'insectes sur la planète, les écosystèmes naturels s'effondreront et nos régimes alimentaires et la production de fruits ou légumes seraient directement affectés puisque les cultures pollinisées assurent un tiers de l'alimentation à l'échelle mondiale. Comment lutter alors ? Moins de pesticides et une agriculture plus responsable. Facile à dire, mais difficile à mettre en place. Difficile aussi de ne pas s'inquiéter des suites de l'affaire Huawei. Le point titre « Le retour des espions » et la une de l'Obs affiche Xi Jinping en maître du monde. Après l'arrestation de la directrice financière de l'entreprise, accusée par les États-Unis d'avoir usé de méthodes d'espionnage pour s'emparer des technologies américaines, l'Obs passe au crible une stratégie chinoise qui fait froid dans le dos. Objectif immédiat, supplanter la suprématie américaine dans le secteur hautement stratégique du high-tech et surtout de la 5G. Objectif à long terme, avoir un accès privilégié à tout ce que la 5G pourra connecter, villes, transports, banques, services et j'en passe. Moyen d'action, une stratégie digne des films d'espionnage. Avancer masqué et à petits pas, en imposant des collaborations forcées qui aboutissent à une dépendance dangereuse et s'appuyer sur le soutien des politiques comme David Cameron ou Dominique de Villepin qui détiennent d'importants fonds d'investissement chinois, le tout pour achever un objectif ambitieux, être, je cite, le centre politique et culturel du monde pour 2050, rien que ça. Et en parlant d'internet et d'inquiétude, c'est le Figaro aujourd'hui qui dénonce la schizophrénie numérique. Oui, la société numérique serait une immense souricière de coercition, selon Sylvain Tesson, où nous serions en prise à la dictature du cool, et oui, il faut craindre un hold-up de l'attention, une hyper-sollicitation de l'ego, un déferlement narcissique, qui finissent par déconnecter l'homme de lui-même.
Déconnecter l'homme de lui-même, certes, mais aujourd'hui, on parle plutôt de la connexion avec l'âme sœur, non ?
En effet, connexion ou, dans certains cas, divorce. Washington, nous explique Libération, organise une conférence internationale à Varsovie, officiellement consacrée à la paix et la stabilité, mais dont le but réel, ça n'échappe à personne, est bien de tenter de contenir l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, une influence qui ne cesse de croître, le pays ayant bâti en Irak un vrai réseau d'influence et ayant vu sa position en Syrie renforcée après le retrait des troupes américaines. Divorce aussi en France, où l'humanité voit dans la démission du conseiller spécial de Macron, Ismaël Emelien, un abandon dangereux et la dislocation d'un clan. Libération, elle, s'intéresse à l'envers du décor et nous rappelle qu'Emelien aurait été impliqué dans l'affaire Benalla et qu'il aurait même participé à la campagne présidentielle de Nicolas Maduro. Bref, tout ça pour dire que le clan Macron nous cache encore bien des choses.
Le divorce donc, mais aussi des relations amoureuses compliquées.
Exact, depuis peu, le couple France-Italie ne va pas fort. L'Europe se querelle et l'Europe se craquelle, pour le plus grand bonheur des populistes, dénonce Marianne. Dans l'Obs d'aujourd'hui, Natacha Tatu fait le diagnostic d'une rupture entre deux frères dont elle cherche à déterminer les causes. La question migratoire, les actions de la France en Libye, ancienne colonie italienne, la rencontre des Gilets jaunes avec Luigi Di Maio et l'annulation de la ligne TGV Lyon-Turin. Bref, le tandem tangue, constate Tatu, mais ce qui pourrait faire penser à un acte de comédie à l'Arte est en fait une lutte pour la popularité dans un contexte d'élection européenne, une lutte qui pourrait vite tourner au drame européen.
Ah, un drame, un amour brisé, c'est un peu shakespearien tout ça.
Alors oui, en effet, mais ce qui l'est moins, c'est l'article de Libération qui nous parle de l'amour à l'époque d'Internet et suggère que demain, les algorithmes pourront peut-être prévoir la durée d'une relation avant qu'elle ne commence ou déterminer la probabilité de succès d'un mariage. Et le journaliste d'évoquer le Hello Score, un système un peu effrayant. Vous avez une note selon votre physique, 5 par exemple au hasard, et vous ne pourrez que rencontrer des personnes qui ont la même note que vous. En bref, vous l'avez compris, il s'agit de caser les moches avec les moches et les beaux avec les beaux. La start-up américaine va plus loin encore en vous proposant un coach virtuel, qui vous pose des questions personnelles et analyse finement vos réponses pour pouvoir vous proposer le partenaire de rêve. Mais rassurez-vous, le journaliste nous le rappelle en guise de conclusion, l'amour restera toujours une alchimie subtile qui ne pourra jamais être modélisée parfaitement.
Décidément, tu es déterminé à nous parler d'amour.
Alors oui, fil conducteur tout trouvé, je te l'avoue. Et puis, comme le 14 février, certains passent leur soirée seuls, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à ceux dont on parle trop peu, qu'on veut chasser de l'espace public et qu'on oublie souvent. Le Parisien nous apprend que c'est justement ce que fait la Fondation Abbé Pierre, mais sans misérabilisme, plutôt avec humour et dérision, qui restent les meilleurs outils pour agir. La Fondation a en effet remis les premiers pics d'or au dispositif anti-SDF installé notamment à Paris, Biarritz ou Toulouse. En tout, ce sont 6 récompenses aux titres étonnants qui ont été décernées. Fallait oser du dispositif le plus décomplexé, pour les sièges microscopiques installés sous les abribus de Biarritz. Faites ce que j'y, pas ce que je fais. Ou dispositif le plus fourbe, pour une jardinière qui remplace les bancs où les SDF avaient l'habitude de dormir. Alors ça fait sourire certes, mais derrière l'attribution de ce prix incongru, des buts concrets. Dénoncer la criminalisation des SDF, continuer à développer le site collaboratif soyonshumains.fr qui a permis de répertorier quelques 300 équipements installés aux abords d'infrastructures publiques pour empêcher les SDF de s'installer. La Fondation a aussi profité de cette cérémonie inédite pour promouvoir plusieurs initiatives. Une charte de 14 droits pour les personnes sans-abri ou le réseau du Carillon, soit 800 commerçants dans toute la France qui permettent aux SDF d'accéder à des toilettes, de charger leur téléphone ou de prendre un repas payé par client.
Ah bah voilà, on y vient enfin, un peu d'amour.
Oui, la Croix aborde le sujet de manière, disons, poétique, en consacrant un dossier à la parole amoureuse. Il s'agirait, par les mots, de nidifier la vie à deux, de magnifier l'instant présent, c'est très beau, et de laisser place au silence. Dans l'Obs, on est plus pragmatique, et le psychologue Sylvain Mimoun écrit même ne pas croire à la fusion entre deux êtres, selon moi, dit-il, les clés du bonheur résident dans le fait de rester des êtres à part entière, afin de donner le maximum, explique-t-il. Au final, peu importe, ce qui compte, c'est que l'on trouve toujours, dans les lignes des articles, un fragment d'amour au milieu des histoires de géopolitique et de magouilles financières, et ça, ce n'est pas de refus.
Merci Marie!